If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Coucou Pauline.
Coucou Lisa.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah bof en ce moment, on va pas se mentir.
C'est pas la joie. Et vous les abonnés, vous allez comment?
On attend toujours votre réponse. Hein. Ça bouge pas. Hein.
Ça changera
épisode.
Jamais.
Quatrième épisode et vous nous répondez pas?
Non. Franchement, on commence à être vexés.
Ouais, j'ai l'impression qu'on a une mauvaise relation, une relation toxique, pas forcément saine, qui va
c'est
que partie. Dans un sens.
Les relations toxiques.
Voilà. Tard l'époque, fit les abonnés. Aujourd'hui, on vous retrouve donc pour un nouveau podcast, un nouveau sujet dont on parle beaucoup, Pauline et moi, en ce moment, parce qu'on est en plein dedans.
On est au cœur de la situation, au cœur de l'ouragan.
Exactement, ouais.
Donc, je pense que ce format-là, enfin, cet épisode-là, il va pas forcément avoir beaucoup de conseils, mais plus ça va être une réflexion sur notre état d'esprit général, et celui qu'on partage toutes les deux, parce qu'on est un peu dans la même situation. Et on espère que ça pourra vous plaire et vous aider ou vous faire cogiter.
Et on est full, là, sur le sujet crise de la vingtaine. On est en plein dedans. Donc aujourd'hui, le sujet, Pauline, comment s'appelle-t-il?
Ça s'appelle « Maman ». « Maman, c'est dur, je mange pas !»«
Maman, j'ai faim !» qui, je trouve, est très appropriée. Mais pour resituer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase connue de tous, j'imagine, j'espère que vous aurez la ref. Si vous êtes notre communauté, vous avez la ref, de toute façon. De quoi est-ce qu'on va parler plus exactement, Pauline?
On va parler de notre crise existentielle, celle que nous, on traverse depuis maintenant quelques mois, qui est le « je fais quoi de ma vie ?» Surtout après une période très compliquée, un échec professionnel, une grosse remise en question, et après avoir fait la majorité de ses études, on fait quoi? On devient quoi? On va où?
Exactement.
C'est un peu le sujet de ce podcast, et on espère que ça va vous plaire.
Pour se remettre un petit peu dans le contexte, que vous puissiez un peu plus situer qui nous sommes, une fois de plus, puisqu'on apprend encore une fois à se connaître, c'est un peu un speed dating en continu qu'on fait ensemble. Pauline, est-ce que tu peux nous dire, toi, par exemple, ton niveau d'études, ta situation actuelle, comment t'es, où t'es, qui tu es,
qui je
tout
suis,
ça,
où
quoi.
Je vais. Alors moi, j'ai, donc pour faire un peu mon CV, ça va être la partie un peu chiante, mais c'est le CV, comme ça au moins vous savez qui je suis. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait une année de fac de sociaux, ensuite une année d'école de commerce, tu sens la meuf, elle savait pas où aller déjà. Et ensuite j'ai fait 3 années d'école de communication à l'EFAP à Bordeaux, que j'ai adoré, et là j'avais commencé un master dans le digital, que j'ai détesté et que j'ai arrêté en plein milieu. Et en parallèle, j'étais en alternance dans une agence et j'ai arrêté mon emploi là-bas pour des raisons que je ne peux citer pour l'instant. Et voilà, donc depuis 4 mois maintenant, je suis en remise en question de ce que je vais faire de ma vie.
C'est très très bien pitché.
C'est sympa.
La vache, ouais, ça donne envie de se lancer dans les études et d'en savoir plus, surtout.
Et toi, alors, raconte-nous.
Pour ma petite partie CV, mon background, à la fin du bac, je suis partie en psycho, fac de psycho, qui a duré, aller à vol d'oiseau, à peu près un mois et demi avant de tout
l'année
plaquer.
De fac post-bac,
elle est obligatoire, mais elle est très rock'n'roll, très freestyle. Je l'ai bien aimée, mais on rentrera en profondeur sur ces étapes-là de notre vie juste après. Après ça, j'ai fait un DUT pendant 2 ans spécialisé en communication. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Énormément de choses. J'ai fait un bachelor toujours en communication, puis un master 1 toujours en communication, puis un master 2. La dame, un bac plus 5 qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Écoutez-moi bien, jeunes internautes. Peut-être qu'il y en a qui vont passer leur bac, peut-être qu'il y en a, ils sont bac plus 2, ça sert à rien. Master 2.
On va se faire boycott. Les mêmes façons. On va avoir des appels de parents en mode mais qu'est-ce que vous racontez, bande de grosses cruches.
Et donc à la fin de mon master, j'ai eu mon premier emploi, qui, voilà, une expérience finalement, qui a débouché vers un burn-out. Ça arrive, ça touche beaucoup de gens, et on va un peu en parler et revenir sur toutes les fois où, pendant notre scolarité, on a senti que, hop, là, ça flanche un petit peu, la fenêtre, hop, petit pied par-dessus la fenêtre.
Tout arrêter, aller élever des chèvres à la montagne.
Exactement. Ça pourrait être sympa, tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une nouvelle idée créative.
Bah, salut les abos, on se casse.
On part en montagne.
C'est des pranks, hein. On était même super marrants.
Très pranqueuses. Première question, Pauline, j'aimerais que tu répondes, après je répondrai si t'as envie.
Pose-moi des questions.
Moi, j'aimerais savoir quelle a été la première fois où t'as ressenti que t'avais une pression par rapport à ta scolarité, par rapport à ton parcours de vie scolaire.
Alors moi, je pense que ça remonte au collège, parce que déjà, la fille était complètement, complètement stable, tu vas le voir. Mmh. C'est-à-dire qu'en troisième, j'ai voulu arrêter le collège et partir faire des études pro. En fait, j'ai toujours eu une personnalité très créative. Je faisais beaucoup d'art plastique quand j'étais petite. J'étais inscrite à plein de cours de créa, etc. Et être à l'école me saoulait. J'étais pas une mauvaise élève, j'étais pas une excellente élève. Je tournais sur les moyennes, tu vois. Mais j'aimais pas ça, je me faisais vraiment chier à l'école. Et mes parents ont été témoins de tous mes changements d'avenir, d'objectifs professionnels. Mmh. En fait, je crois que j'ai jamais compris le fait de chercher un métier et trouver un métier.
Ouais.
Genre toutes les rentrées.
Un
concept qui m'angoissait à toutes les rentrées quand il y avait cette petite truc de qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier ? Je regardais la feuille, j'étais en mode j'en sais rien, ça changeait toutes les 4 matins, j'arrivais voir ma mère, maman j'ai trouvé ce que je veux faire de ma vie. C'était faux, ça durait 2 semaines, après je changeais d'avis. Et au collège en fait ça commençait à de plus en plus me saouler, j'avais une prof de français trop méchante qui m'avait dit mais toi t'arriveras à rien dans ta vie parce que bah, j'étais un peu hyperactive, en cours je m'ennuyais, j'avais besoin de faire des choses de mes mains. Et mon père voulait me mettre dans un collège spécialisé pour l'art plastique, faire des trucs comme ça.
Okay.
Et j'avais refusé parce que j'avais eu un prof d'art plastique qui m'avait dit « mais t'es pas douée, donc t'y arriveras pas ».
Le discours des profs, juste.
Donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté l'art plastique, j'ai arrêté ce que j'aimais vraiment faire en me disant « bah c'est pas grave, faut que je fasse des études comme tout le monde ». Et donc je suis restée dans le collège et j'étais avec ma mère tous les soirs en train de dire mais j'aime pas ça, est-ce que je fais un truc pro, est-ce que je vais travailler maintenant pour pouvoir faire quelque chose de ma vie. Et au final ma mère elle m'a mis un ultimatum, elle m'a dit écoute, parce qu'à ce moment là je voulais faire esthéticienne, je crois, je voulais tous les trucs, en fait dès que j'aimais bien quelque chose dans la vie, genre par exemple je trouvais que les fringues c'était beau, je voulais être vendeuse, j'avais lu un livre super cool sur des éléphants, bah je voulais aller élever des éléphants en Inde. Je n'avais aucune perspective claire
mais en
et
même
concrète.
Temps d'un côté je trouve que c'est trop bien parce que tu te dis t'avais l'esprit hyper ouvert, justement t'avais envie un peu de toucher à tout, donc c'est un aspect qui est trop bien. Sauf que nous, on nous apprend quand t'es petit que non, tu penses vouloir tout faire. Non, tu vas choisir un métier parmi pas combien de métiers existent dans le monde. Tu dois en choisir un.
Ah, et c'est la
trop
pression.
Frustrant.
T'es là, tu te dis, mais attends, comment ça, moi qui suis une personne aussi avec autant de palettes de couleurs et d'intérêts dans ma vie.
Oh waouh, juste la petite palette de couleurs.
Genre quand tu aimes beaucoup de choses et qu'après tu dois te dire, mais attends, faut que j'en choisisse un que je vais faire jusqu'à ce que je décède.
Ouais.
Mais non, moi j'ai toujours été contre ce concept. Le travail, en général, de toute façon, je crois que c'est pas bête.
C'est gens qui aiment travailler, en vrai. Ceux qui sont là, non mais moi, ma journée, c'est travail. Non.
Du coup, bah, j'ai très vite compris que fallait que j'entreprenne quelque chose, et je savais pas quoi, donc ma mère m'a mis un ultimatum, mais on a fait un arrangement en troisième, où elle m'a dit, écoute Pauline, tu vas faire ta seconde, on va te mettre dans un lycée, donc dans un bon lycée du centre-ville de Rennes. Mon père m'avait déjà inscrite à plein d'options pour que j'apprenne à aimer l'école, en mode tu vas faire du latin, tu vas faire ça, donc j'avais plein d'options, c'était super, mais ça m'aidait pas à savoir ce que je voulais faire. Et donc j'ai passé cet accord avec ma mère d'aller jusqu'en seconde, et après je suis restée dans le parcours, parce qu'une fois que t'es en seconde, bah, j'ai fait bon, bah, je vais faire ma première, je fais ça. Et voilà, mais fin collège, c'était déjà catastrophique pour
moi. La première remise en question.
Ah ouais, et toi ?
La première fois que j'ai senti la pression, ça a été quand même hyper jeune, genre vraiment primaire, mais plus des discours extérieurs, pas tant, tu vois, des professeurs ou des élèves, parce que bon, en primaire, personne ne parle trop de ces notes, de ces trucs machin, mais plus pression extérieure, genre par exemple de mes parents, d'amis à mes parents qui vont dire « Ah bah moi, ma fille qui a à peu près le même âge que moi, elle a tant de moyenne, elle sait déjà écrire, elle sait déjà faire ci, elle sait déjà faire ça, machin », enfin, cette pression-là, je l'ai ressentie dès le primaire. Genre le premier souvenir que j'ai, c'est de me dire « Putain, j'écris pas hyper bien. Genre, mon écriture, elle est pas hyper jolie. »
J'ai la même chose.
C'est vrai ?
Oui.
C'est abusé.
C'est horrible. Qu'est-ce qu'on s'en CP, fout ? Les profs, ils sont là, ils se disent « Ah, mais t'écris un peu comme un petit cochon, mais t'écris pas bien. » Et t'as les meufs qui écrivent comme si elles font de la calligraphie.
Ah ouais ?
Moi, chaque fois, je suis désolée, c'est peut-être illisible et c'est encore un complexe. Je pense que toi, du coup, aussi,
ah bah ouais, de ouf.
D'écrire parce que c'est en mode « Bah, c'est moche. » Alors qu'en soi, tu t'en fous.
C'est censé être compris, lu par quelqu'un. C'est parce que c'est beau. Genre, à quel moment une écriture, c'est censé être beau ? C'est pas des putains de poèmes.
À quel moment on a sexualisé l'écriture ? Sérieusement ?
C'est même plus romantisé.
C'est sexualisé en mode t'as une belle écriture, t'es super belle et sympa. Par contre, t'as une écriture moche, t'es un petit cochon.
Moi, je me disais, si j'écris mal, c'est que je suis débile, je suis chum.
Oui, moi aussi, je suis crade.
Mais oui. À quelle heure ton écriture est définie ta propreté ? Moi, je suis une petite meuf fraîche. Ok, mon écriture, elle est pas belle.
Mais il n'y a pas les boucles là, comme
non,
ça.
Mais voilà, c'est
le temps d'écrire. Déjà, ces gens-là, comment ils font au bac ?
Non, mais.
Parce que t'écris des belles lettres là.
On n'a pas le temps d'écrire. On n'a pas le temps d'écrire. Et tu sais, nous, en primaire, il y avait un peu. Enfin, c'était pas la compète, mais t'avais des profs qui nous remettaient des trucs. C'est justement, on avait des belles écritures.
Ah ouais ?
Ouais, genre une étoile ou je sais pas, une merde comme ça, tu vois.
C'est horrible.
Bah ouais. À chaque fois, je m'en souviens, c'était Claire. Et Claire, je sais pas si elle écoute ce podcast, je parle encore. Claire, t'avais la meilleure écriture. J'étais jalouse. J'étais tellement jalouse. Donc bref, j'avais eu ce premier épisode un peu de pression vis-à-vis de mes parents, tu vois. Et moi, juste de l'image que je reflétais. Et après, la deuxième fois où je l'ai ressenti, mais cette fois-ci vraiment plus propre à mon choix de vie, ça a été en seconde, je pense. À partir du moment où tu choisis ta filière. Donc j'avais des notes catastrophiques, et vient la fin de l'année, le choix de la filière. Et j'avais eu un rendez-vous avec la meuf qui gère ça, la bref, je sais pas comment ça s'appelle.
Conseillère d'orientation.
La conseillère d'orientation. Purée.
Celle qui t'aide à ne pas trouver ce que tu veux être.
Exactement, à faire tout l'inverse. Horrible.
Tu sais pas quoi faire de ta vie ? Coche des cases, on va te dire quel métier tu feras.
Exactement.
Ce concept.
Et elle m'avait dit, écoute, t'as deux options. La première, c'est tu redoubles. Et la deuxième, c'est, tu sais, genre, elle marque un temps de pause. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me proposer ?
Tu changes de lycée, tu retournes en troisième.
Voilà, tu refais tout ton parcours scolaire. Et elle me dit, la deuxième option, c'est tu vas en STMG. Et donc, du coup, genre, vraiment, l'image que j'avais de la STMG, c'était, c'est pire que redoubler, quoi. Genre déjà redoublé tu te sens comme une merde, alors allez en STMG. Parce que le lycée dans lequel j'étais, comme beaucoup de lycées, je pense toi aussi t'as dû avoir des gens qui avaient ce point de vue là par rapport à la STMG, c'est un peu les merdes,
ouais,
tu vois.
Ils
avaient aucune autre possibilité, donc ils sont partis là-dedans, quoi. Et je me suis dit vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de redoubler, donc je suis partie en STMG. Mais là, enfin, je me suis sentie mais nulle.
Mais de toute façon, t'as l'élite. Je sais pas si, enfin, tu vois, on en avait parlé l'autre jour toutes les deux de cette la vision que tout le monde a de chaque filière.
Ouais.
Alors, je sais que maintenant il y a plus ça, donc je pense que les plus jeunes auront pas ce questionnement-là.
Sauf si Mélenchon repasse. Votez Mélenchon.
Oui.
Ouais. Allez.
Mais tu vois, ce truc de ta S, donc S, c'est les génies, c'est au-dessus de tout le monde, tu es en S, tu as réussi ta vie, t'es la fierté de ta famille, de tes enfants et de tes ancêtres.
Exactement.
Y a pas, ça se la pète au coin fumeur, c'est en S, la SVT, physique, chimie, tu vas faire quoi avec ça ? Sérieusement.
Tes plaques tectoniques de merde, hein.
Vous allez comprendre très vite qu'on est sur une humeur fracassante.
Ah ouais, vraiment.
Rien n'est à prendre personnellement.
C'est pas agréable aujourd'hui.
Rien n'est pas sympa. Après, t'as les ES, c'est un peu moi ce que je qualifie de ceux qui savaient pas quoi faire.
C'est un peu des gauchos de droite.
C'est un peu,
tu vois, ou
c'est un peu la Suisse.
Ouais.
C'est ceux qui votent Macron. Et après, t'as les L. Bibi. Les L, t'es vu
que... en dehors de la société.
T'es vu en mode, vous les troubadours, en mode tu fais des fêtes médiévales, mais excusez-moi si j'aime lire, ouais, ça va pas ou quoi ? Je parle trois langues et vous me catégorisez de médiévales.
Mais oui, parce qu'en même temps, Enfin, pour ne pas avoir été en L, moi, je voulais aller en L. J'ai pas été prise, du coup. Mais genre, les L que j'avais dans mon lycée, c'était le cliché. Genre, vraiment le cliché fois 1000.
Mais tout ça pour dire que t'as toutes ces catégories, déjà,
ouais,
qui te font avoir une identité qui est pas forcément la tienne, et tu dois déjà rentrer dans une putain de case. C'est même pas genre qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes matières préférées, c'est tu rentres dans telle filière, tu as une identité qui te colle à la peau.
Ouais.
Et puis t'as tout le truc, je sais pas si toi t'avais ça en STMG, mais moi je l'ai eu en étant elle, la famille. Genre la famille.
Oh là là.
Ces remarques au repas de famille de t'es, moi j'avais ça en L de ouf, hein. T'es en L mais tu vas faire quoi? Tu vas faire bibliothécaire, tu vas... En mode, déjà t'as même pas encore eu ton bac, qu'on réduit ton avenir à rien. En mode, mais t'aurais dû faire ça, faut être sur la méritocratie, faut être sur l'élite, faut faire S ou ES si tu veux y arriver dans ta vie, etc. Et t'es là, t'as déjà même pas le droit de dire ça j'aime bien et je veux le faire, que des gens te disent mais on s'en fout si t'aimes bien, faut faire un truc, qui va payer par la suite, etc. Et moi j'ai eu la chance, après toi tu me diras si toi aussi, quelle était ta vision des choses avec tes parents. Et moi, je sais que ma mère, elle m'a toujours dit fais ce que tu veux, je m'en fous, enfin, fais un truc qui te plaît. Je préfère que tu fasses un truc qui te plaise plutôt qu'un truc qui te saoule et que tu fasses par dépit. Donc, elle m'a laissé aller dans les filières que je souhaitais. Mais plus du côté, surtout de mon père, où là, c'était il faut, si tu vas en L, alors est-ce que après tu penses que tu peux intégrer Sciences Po? Est-ce que tu peux être. En fait, c'était il faut être le meilleur de ce que tu vas faire, même si tu fais un truc un peu bof, soit le meilleur de ce truc-là. Donc t'as déjà un peu zéro chance parce que tu sais même pas ce que tu fous là, que tu dois déjà penser à quand tu devras être le meilleur.
C'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi par rapport à la pression des parents. C'est ouf parce que c'est ton avenir et eux, ils te mettent plus la pression que toi, tu peux te la mettre, quoi.
C'est ça.
C'est impressionnant. Et genre, bah, moi, du coup, pour ma famille, ma sœur, donc avec qui on a assez peu d'écart, elle avait déjà un peu frayé le chemin parce qu'elle, elle a fait aussi un bac STMG. Et donc déjà, c'était un peu plus OK, tu vois. Mais donc ma mère, elle, ça l'a jamais trop dérangée. Enfin, en tout cas, elle l'a pas formulé. Après, je sais pas, peut-être je vais recevoir un petit message
dis-nous les darons, là. C'est maintenant que jamais.
Mais mon père, j'ai l'impression, là c'est vraiment que mon interprétation, mais j'ai l'impression que ça l'a quand même un peu frustré, parce que du coup, ses deux seuls enfants, elles ont pas eu justement le parcours un peu excellence, alors que lui, vas-y, les maths, il a une réflexion, il est trop chaud là-dessus. Je crois qu'il avait fait l'équivalent d'un bac S, je sais plus comment ça s'appelait à l'ancienne, parce que vas-y, t'as vu les vieux. c'est une bonne bouteille de vin, mon père. Enfin bref, il avait fait l'équivalent de ce truc-là. Et il a toujours un peu essayé de nous façonner l'esprit par rapport aux maths. Tu vois, c'est lui qui nous faisait des cours de maths où ça pleurait H24 quand il nous en donnait. Mais bref, des sciences, machin. Enfin, lui, il est très chaud là-dedans. Donc, le fait de ne pas avoir eu d'enfant qui se spécialise un peu dans le secteur-là, j'ai l'impression que ça l'a frustré pendant un temps. Donc, déjà, moi, je me sentais mal. Là, je me sentais encore plus mal. Oui. Jamais je déçois mon père.
Ouais, c'est horrible.
Horrible.
C'est horrible ce truc de t'as l'impression de décevoir. De toute façon, on va en reparler parce que c'est un peu la continuité des choses. Mais c'est vrai que moi, tu vois, mes parents... Donc ma mère, vraiment, sur ce côté-là, j'ai rien à dire parce qu'elle m'a vraiment toujours accompagnée dans mes choix et dans ce que je voulais faire. Mon père, c'est vrai que c'était très compliqué parce que lui-même n'a pas le bac. Il l'a passé 4 fois, je crois. Il s'en foutait. Il voulait faire du sport, donc il a fait une grande école de sport après. Il a excellé dans tous les domaines de ce qu'il faisait. Donc il avait vraiment cette double casquette de... Je veux te pousser dans tes passions, genre moi avec l'art plastique, etc. Ma sœur avec l'anglais, la littérature, parce que ma sœur, elle est à l'inverse de moi, un parcours parfait, voire élitiste. Et il voulait nous pousser dans ça, mais en même temps, si on faisait ce qu'on aimait, il fallait être l'excellence. Ouais. Donc il n'y avait pas ce truc de est-ce que je tâtonne, donc j'ai
quand même bloqué. C'est horrible parce que c'est vraiment pression constante. Oui. Ok, tu peux faire quelque chose que t'aimes, mais tu dois vraiment être 20 sur 20, c'est machin, ça. C'est horrible.
Et si tu fais quelque chose que t'aimes et que tu te plantes, autant faire un truc qui va te rapporter. Donc c'est déjà, on n'a même pas le bac à ce moment-là, pour resituer les choses. Et on a déjà peur de décevoir nos parents, on a déjà une étiquette de coller, un avenir de quasiment tracé sans savoir ce qu'on veut faire.
Des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui te jugent.
Voilà. Et on parle de personnes de souvent 17 ans et qui sont mineures et qui sont là en mode qu'est-ce qu'on fait.
Déjà, toi, t'es en pleine construction personnelle de juste qui je suis, machin. C'est dont on a parlé au premier épisode, je crois, on abordait ce sujet-là. Et en plus de ça, t'as cette putain de pression scolaire. Et du coup, tu parlais du bac, l'après-bac, qui est encore un new chapter, un nouveau chapitre, comme on dit en latin, parce que du coup, t'as fait du latin. L'après-bac, ce moment de vie, je sais même pas quel mot placer là-dessus. je sais pas, un flou artistique.
Ouais, un flou, j'ai envie d'un, d'un mot style xylophone. Tu sais, il y a des lettres, tu sais pas pourquoi.
Appelons l'après-bac xylophone. Ok. Mais en vrai, ça a du sens. Ça a pas de sens, mais ça a du sens. Oui, non, mais oui, genre juste un mot.
Ça a pas de
un
sens s'il y a des grosses lettres partout. Ouais. Tu sais pas pourquoi c'est les lettres de la fin de l'alphabet qui sont au début.
C'est vrai.
Toi, du coup, comment t'as choisi ton, ton post-bac?
Bah, après 3 ans où tu fais quand même que t'as fait, ou enfin, je sais pas, t'as un rythme scolaire qui est un peu horrible, et que là on dit vas-y, fais ce que tu veux. Moi j'étais là, mais c'est la liberté, c'est un champ des possibles, un boulevard de cul qui s'offre à nous. Petite ref à l'épisode 3, allez le regarder. Enfin bref, il y a 1 million de choses que tu peux faire, ça y est, tu peux découvrir ce que t'aimes, machin. Mais en fait non, parce que à quelle heure, à quel moment de ta vie, une fois que voilà, t'as fait le lycée, machin, et qu'on te dit APB, enfin ça s'appelle plus APB, je sais pas comment ça s'appelle,
Parcoursup,
à quel moment, entre la fin de ton bac et le début d'année, t'as le temps de te dire qu'est-ce que j'aime, en fait. Parce que là, voilà, j'ai eu ma filière, j'ai fait ça comme cours, mais en vrai, j'aime quoi.
Et déjà, faut pas oublier, madame, que t'as même pas ton bac, qu'on te félicite à peine, t'as mais crevé oui. pendant 3 ans. Oui. C'est à peine, merci, bravo le bac, vas-y, oui. repose-toi. C'est, oui. Ok, t'as ton bac, mais tu fais quoi maintenant avec ce bac?
Mais c'est ça.
T'as mais laissez-moi.
T'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de réfléchir à ce que t'aimes. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit dans mon petit cerveau d'adolescente? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Moi, j'adore parler aux gens. Souvent, je prends cette voix-là. C'était la voix que j'avais quand j'étais en psycho. J'adore parler aux gens, écouter leurs problèmes, et je pense que je pourrais être un réel soutien pour la société. Psycho. Non, pas du tout.
Psycho, c'est je sais que j'ai besoin d'aide, mais je sais pas comment.
Ceux qui vont en psycho en sortant du bac, c'est qu'ils ont besoin d'aller voir un psy. Ils se sont dit, si je comprends peut-être les problèmes de la Terre entière, je vais comprendre mes problèmes. Ça ne fonctionne pas. Spoiler alerte. Et donc bref, donc du coup, je me dis, vas-y, psycho, ça fait des années, j'y pense, machin. C'est faux, Lisa, tu aimes juste parler avec des gens. C'est tout, ça s'arrête là.
Et bref. Tu as besoin de parler.
Et tu as besoin de parler, de voir quelqu'un. Et donc du coup, je suis partie en psycho, donc j'ai été acceptée, hein, parce que bon, bah voilà.
Tout le monde était accepté à l'époque, N2, quoi, c'est avant ça. Macron.
Oui, mais oui, putain, j'avoue, bah là, c'était très facile de rentrer en psycho, donc bref, j'y suis rentrée. Je découvre les bancs de la fac, la possibilité de sécher une semaine de cours avec à peu près 20 heures, quelque chose comme ça, ouais, 20 heures de cours par semaine, donc moi j'ai assez la fast life. 20 heures, en vrai, j'abuse, il y en avait peut-être 15.
Oui, mais c'est ce que je comptais, ouais. J'étais en mode 14. Hein. Ouais, ouais. On n'est pas sûr du 20 heures. 20 heures avec les partiels, quoi.
C'est ça, voilà. Et donc, je comprends que j'ai pas besoin d'assister forcément à tous mes cours en amphi parce qu'il n'y a pas d'histoire de pointage, machin. Je découvre la possibilité de sécher sans qu'il y ait de répercussions derrière. Donc, fast life de mon côté, ça part sur des soirées, machin. C'est l'éclat, c'est rock'n'roll. J'avais juste un seul cours de maths, de stats, je crois, je sais plus. Je suis une merde en maths, fini. Donc, je suis jamais allée. Peut-être une fois, histoire de regarder un peu la salle, à quoi est-ce qu'elle ressemblait. L'amphi, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Les TD, très rapidement, je les ai tous séchés. Et au bout de, ouais, allez, un mois et demi, on va dire, j'assistais à plus rien. Et ça y est, c'était fini pour moi. Et c'était une époque où tout le groupe de potes que j'avais, tout le monde arrêtait des études à peu près en même temps. Genre vraiment 2 mois, 3 mois grand max, après tout le monde c'était « non, c'est bon, on arrête ». Et en vrai, cette année-là, je l'ai quand même pas mal kiffé parce que, je sais pas, j'avais besoin de ce souffle un peu de « viens, tu fais une pause, tu fais rien ». Mais d'un autre côté, cette pause-là, elle m'a pas non plus permis de réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que j'avais déjà toute la fatigue accumulée depuis le collège, le lycée, le bac, le machin, tu vois. J'avais déjà tout ce stress, cette fatigue mentale accumulée que quand j'ai tout arrêté, je me suis dit, je fais rien.
Bah surtout que t'arrêtes jamais rien au final parce que tu rentres à l'école, t'es entre 2 ans et demi et 3 ans.
Ouais.
T'arrêtes, t'as 17-18 ans et t'es là, c'est limite... Limite, t'as ce petit truc où t'as peur d'être libre, t'es en mode je fais quoi, la vie commence, cette espèce de liberté, je l'accepte, est-ce que je suis en train de partir à la dérive totalement?
Ouais, non, mais c'est ça. C'est que t'es quand même dans des phases, je vais te retourner à la question juste après, t'es quand même dans des phases où t'as des moments pendant cette année après bac où tu dis vas-y, c'est la fast life, je m'en fous, j'ai 18 ans, 19 ans, je suis trop fraîche, je peux faire ce que je veux, je me trouve un taf, moi je bossais au McDo, j'ai l'impression de rouler sur l'or littéralement. Enfin, c'est bon, tu te dis la vie est belle, etc. Et puis t'as quand même des petits moments de pression de tes parents, encore une fois, on fait un petit coucou aux parents. T'as quand même des moments de pression, et même que tu te mets toi-même, où tu dis, bon, par contre, l'année prochaine, il faudrait peut-être reprendre. Mmh. Parce qu'un an de pause, encore, c'est pas vraiment un an, une année scolaire de pause, c'est OK. Mais par contre, tu vas pas continuer comme ça. Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même que tu retrouves ce que t'aimes. Et au final, tu te refous la même pression que l'après-bac. Mais cette fois-ci, c'est la pression que tu te mets toute seule et pas celle que ta conseillère d'orientation te met.
De ouf.
Et toi, du coup, l'après-bac ?
Bah, moi, c'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'en terminale, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime bien comprendre les choses. Mais moi, c'était pas psycho, je suis allée en socio. On était dans le même bâtiment, meuf.
Mais t'es à Rennes 2 ?
Oui.
Ah, mais on a un an de différence.
Bah oui.
Ah, oh, fait chier. On aurait pu croiser. On aurait mangé aux rues ensemble.
Oui. Et du coup, bah, j'arrive en socio. Au bout de vraiment deux mois, moi, je sais pas, un mois, on va dire, on va prendre le milieu. Mmh. Je dis à ma mère, je n'aime pas du tout ce que je fais, je n'aime pas la fac, je sais pas ce que je fous là. C'était très intéressant. J'ai quand même fini mon année dans le sens où, comme j'étais boursière, j'ai suivi tous mes cours TD, etc. Mais j'avais un taf à côté pour me faire de la mala, quoi, partir en voyage, les vacances. Mmh. Et comme tu l'as dit, c'est un peu ce truc où tu es là en mode, j'aime pas ce que je fais là, je fais quoi? Parce que faut pas oublier que dans la vie, t'as pas 800 choix. T'as le choix entre la fac ou les écoles privées. Y a pas 300 possibilités. Ou alors les autres, c'est sur concours, sur dossier. Personnellement, j'avais pas un dossier qui allait me faire rentrer à Sciences Po Paris. la petite dame, elle avait pas beaucoup de possibilités. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait juste au début lâcher prise. J'ai vécu mon année. J'avais des potes et tout. Et très vite, bah, comme tu l'as dit, il y a eu les parents qui sont arrivés dans le game en mode « Mais tu vas faire quoi de ta vie sinon ?» Parce que, enfin, toi, je sais pas comment ils sont tes parents, mais moi, c'est vraiment des parents qui n'ont jamais arrêté de travailler. C'est-à-dire que ma mère, elle a dû commencer à taffer, elle avait 13 ans, et elle s'est jamais arrêtée. Je pense qu'elle s'est arrêtée quand elle a couché, peut-être, 2 semaines, après elle a repris. Et mon père, c'est pareil, genre, il a toujours taffé, fait ses projets, même si c'était pas dans des entreprises, mais en auto-entrepreneur. Il a toujours bougé, il n'y avait pas une journée en mode « Bah là, je fais rien ». Donc moi, leur fille, avec le bac, qui les regarde en disant « Bah là, moi, je... Waouh, pisse, je fais rien. » C'était, je pense, le pire truc qui pouvait leur arriver. Et inconsciemment, je pense, parce que même s'ils étaient en mode « Bah, profite quand même, essaye de trouver ce que tu veux faire », il y avait quand même souvent cette question de « Mais tu vas faire quoi ?»« Mais sinon, c'est quoi tu... ?»
C'est la pire question. Tu veux faire quoi ? J'endormais pas, en
vrai. Et t'as la boule au ventre, t'es en mode « Mais... Mais je sais pas qui je suis, donc tu te presses, tu es en mode mais qui est-ce que je veux être, qu'est-ce que j'aime, tu fais des introspections, mais de malade, enfin moi je me revois.
T'as jamais rempli de ces questionnaires là, qu'est-ce que vous aimez
sur
machin.
Sur Onicef,
Unicef.
Unicef, je sais plus, enfin.
Ah oui non mais c'est ça, c'est Oni quelque chose, je crois que t'as raison.
Enfin bref, les questionnaires de quel métier voulez-vous faire plus tard, et je savais pas. Et je disais à ma mère, bah je sais pas, moi j'aime bien ça, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que j'aimais bien quelque chose, je voulais le faire. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, j'aime quoi ? J'aime bien un peu les réseaux sociaux, j'aime regarder des vidéos sur YouTube, et je me suis dit, bah peut-être que je kifferais dans l'organisation. Et en fait, j'ai travaillé pendant toute cette année-là en tant qu'hôtesse d'accueil pour une agence d'événementiel, et je me suis dit, bah trop cool, je vais organiser des événements. Donc je me suis dit, je veux faire quoi ? Je veux faire du marketing, de la communication. Donc je suis rentrée dans une école à Rennes, une école privée, donc pré-étudiant. Donc je rentre dans une école privée, donc avec un pré-étudiant, où je me dis, bah ok, t'as pas le droit à l'erreur. Donc t'es déjà stressée, tu sais pas ce que tu fais. Mais le fait d'être en pré-étudiant, t'es en mode, je vais devoir le rembourser, je peux pas jouer avec cet argent. Donc je me donne à fond toute l'année, j'ai des très bonnes notes. Et sauf qu'au milieu de l'année, encore une fois, je me rends compte, j'aime pas. C'est pas ça que je veux faire, c'est du commerce, je n'aime pas le commerce, je n'aime pas les maths.
Tu n'es pas de droite.
Je ne suis pas de droite, je veux faire de la création, de la créativité. Et il y avait l'EFAP, donc, qui est une école de communication, qui me trottait dans la tête depuis des années, sauf que je me disais, c'est à Paris, Bordeaux, Lyon, enfin c'est partout sauf ici. Et en fait, un jour, j'ai dit à ma mère, écoute, c'est bon, je veux faire un truc qui me plaît. Cette école, elle a l'air trop bien, je veux trop aller là-bas, donc... Ma mère et mon père, les deux, ils m'ont trop suivie et ils m'ont dit « Ok, très bien, c'est une très bonne école, passe le concours. » Et j'ai été prise et je suis restée 3 ans là-bas et ça a été 3 années trop top. Et franchement, comme quoi, il y a le petit moment post-bac, parfois, où t'es en mode « Je sais pas quoi faire. » Et après, il y a quand même des moments dans les études où t'es en mode « Bah, ça peut être cool aussi. » En fait, le parcours, il est pas que une pente ou que une montée. Ça peut être un moment de vide, après, en fait, t'aimes bien et après, revide. Et toi, du coup, comment t'as fait après donc cette année de psycho.
Ouais.
Après comment tu t'es dirigée.
Est-ce qu'on peut vraiment l'appeler année de psycho.
Cette année officiellement sur le CV il y a écrit psycho.
Et bah je pense que j'ai rempli les mêmes trucs que toi, toujours la même question, Onicep, Onitruc là machin. Et c'est pareil, bah les trucs que je kiffais effectivement, réseaux sociaux, digital machin, donc ils m'ont dit communication, je fais ok let's go.
Et communication, du coup, c'est vraiment la filière de tous ceux qui savent pas quoi
ah, mais
faire.
Oui, meuf, de ouf, de ouf.
Mais la filière payante pour ceux qui veulent, qui savent pas quoi faire, mais veulent payer pour essayer de trouver.
C'est ça. Et sauf qu'à ce moment-là, bah justement, j'avais pas envie de faire un prêt étudiant. Je voulais pas partir tout de suite en école privée, etc. Du coup, je me suis inscrite à deux DUT spécialisés en information communication. Un qui est je ne sais plus où dans la Bretagne, enfin bref, et un autre à Tours. Celui en Bretagne, je n'ai tout simplement pas été acceptée. Et celui à Tours, j'avais été mise sur liste d'attente et j'ai été acceptée, je crois, une à deux semaines avant la rentrée. Donc moi, du coup, toute l'année, j'étais en pression, en larmes tout l'été. Je disais, mais j'ai pas d'école, mais je vais rien faire de ma vie, machin, au bout du Rolls. Et au final, j'ai été acceptée. Et je pense que c'est sincèrement l'un des meilleurs DUT possible en communication, parce que vraiment, enfin, on faisait des trucs trop cool. On avait des semaines spéciales pour faire de la photo, des semaines vidéo. Enfin, vraiment, ils nous offraient la possibilité de voir plein de secteurs de la communication, même des cours de com de crise où, enfin, on nous prévenait pas, on se retrouvait à aller dans une salle et on était, ils nous disaient, bah là, vous êtes un intervieweur, vous êtes un journaliste, et il s'est passé un truc dramatique, et bref, vous devez répondre à tel truc. Enfin, on faisait des trucs vraiment trop, trop stylés. Et du coup, ça m'a permis de voir plein de secteurs de la com différentes. Et après, de me spécialiser un peu plus là dans le digital et pas forcément la com plus classique, j'entends genre la presse, etc., print et tout. Et donc, du coup, ça m'a quand même pas mal aiguillée. Mais pareil, à la fin de mon deuxième, enfin de mes deux ans de DUT, ma deuxième année, j'étais, ah, bon, bah du coup, qu'est-ce que tu fais? En plus, t'as tous les trucs de trouver un stage, trouver un ci, trouver un ça.
Les stages, la pire pression pour les étudiants, vraiment.
Ah ouais, mais c'est terrible. C'est terrible. Entre les fois où on te répond pas, où juste tu sais pas dans quelle entreprise tu veux aller.
Et juste à un moment, t'as l'impression que tu fais une apnée.
Ouais.
Et t'as l'impression que ta vie, personne t'aide. Hein. Mm. Genre ta vie dépend à un fil, à une réponse. Tu prends le premier truc qui vient, tu sais même pas ce que t'aimes.
De ouf.
On te propose des trucs. Et qui sait lire une offre de stage? Personne. Mm. T'es là, tu postules, tu machins, tu bidules.
Ouais.
D'ailleurs, fun fact, tous les stages que j'ai trouvés, c'était que par des DM Facebook ou Insta. J'ai jamais envoyé un CV ou une lettre de motivation.
C'est vrai? Oh,
et
putain.
Franchement, je me suis retrouvée dans des bonnes boîtes à chaque fois.
Bah oui, de ouf.
Et jamais, j'aime pas les lettres de motivation.
La chance, c'est le pire truc.
C'est un enfer. Et genre, franchement, j'ai réussi à trouver des trucs cool comme ça. Mm. Donc, si vous cherchez un stage en communication, n'essayez pas que les lettres.
Maintenant, faut
les
DM.
Envoyez des DM. Mm. Les entreprises aiment bien.
Ouais.
Oui. Des conseils de recrutement, nous maintenant.
Alors qu'on n'a pas d'emploi. Si vous voulez de l'aide pour l'aide de motivation, CV, tout ça, vous savez à quelle porte toquer, hein. Bien fait, sympa ça. Du coup, après, je suis partie cette fois-ci dans une école privée parce qu'au bout d'un moment, dling, 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 comme t'as dit, faut payer. Et après, bah, comme j'étais en alternance, du coup, c'était plus tranquille, quoi, c'était remboursé. Mais à chaque fois, genre tous les ans, puisque du coup, j'ai changé trois fois d'école après mon DUT. Juste, j'aime pas l'école, je pense, après, au bout d'un moment.
Tu sais, quand il y a trop de lignes, au bout d'un moment, tu dis, elle aime pas trop ça.
Ça, c'est bon, je t'ai vu, je peux pas rester dans une relation longtemps. C'est bon, j'ai compris, j'ai vu la tête des profs, la tête des élèves, maintenant, je change. Donc, du coup, j'ai changé trois fois d'école, donc pour mon bachelor, j'étais à OK, let's go, j'étais dans une ville que j'ai détestée. Après, je suis partie à Paris, OK, d'accord, Tour Eiffel, nanana, sympa. Mais c'est bon, on a compris.
Oui, oui, baguette.
Oui, oui, baguette, ça va bien deux minutes. Tu payes ton forfait de carte, là, je sais pas combien d'euros, de 1200, de tout ce que tu fais, ça coûte vla cher. La vie, elle est vla cher, ton appartement, il fait 5 mètres carrés, là, c'est la merde. Bref, Paris sympa, ça va, l'école à chier. Donc après, je suis revenue à Rennes. École nulle. En vrai, dans les trois écoles que j'ai faites après mon DUT, bah, j'ai sincèrement l'impression que les deux dernières années de ma vie, j'ai rien appris de nouveau.
Mm.
Sauf le fait d'être en alternance. Et du coup, nouveau conseil, après le conseil des DM, on a chacune nos petits conseils, allez à fond, en vrai, vers l'alternance quand vous êtes en fin d'études. Un conseil, enfin en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus appris à l'école, c'est pas tant les trucs de master 1, master 2, t'apprends tel truc, machin, pendant tes cours, c'est vraiment l'entreprise que tu vas avoir à côté, après ça dépend de l'entreprise. C'est vraiment l'entreprise et les missions que tu vas avoir à côté qui vont t'aider de ouf et qui vont vraiment te permettre de te professionnaliser. C'est le pire mot au monde. Professionnalisation.
Tu as un podcast onicelle.
C'est un mot qui me trigger particulièrement. Mais si vous avez envie d'avoir un parcours de scolaire assez classique, de master 1, master 2, machin,
faites ça en alternance. Vraiment, ouais. Ça aide de ouf.
Déjà, vous êtes mieux payé.
Déjà, oui, t'as pas besoin de faire de prêt étudiant. Voilà. Ça te fait des pauses de temps en temps. Si t'es fatigué quand t'es dans ton entreprise, ça te fait une petite semaine de pause quand t'es à l'école et vice-versa. Donc, oui. Bref, l'alternance, moi, je trouve que c'est pas mal, même si c'est quand même assez éreintant.
Oui, c'est un rythme quand même assez... il faut suivre, quoi.
Mm.
La phrase la plus chiante, c'est un rythme, il faut suivre, quoi.
Donc bref, alternance, professionnalisation, machin, ok, c'était sympa. On conclut ce sujet-là. Mais par contre, Pauline,
Lisa.
Moi, j'ai une petite question. Puisqu'on a parlé voilà, de ton parcours, de mon parcours, on a vachement échangé, c'était hyper fluide.
Parce qu'on se connaissait pas en plus.
Bah, c'est vrai, c'est la première fois qu'on se voit, donc j'en ai appris vachement sur toi.
Merci.
J'aurais aimé savoir, Pauline, aujourd'hui, toi, comment tu te sens? Parce que même si on est à peu près dans la même lignée aujourd'hui, même complètement... Nos deux parcours sont un peu différents. Donc toi, comment t'es aujourd'hui? Comment tu te sens?
Bah moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté le master dans lequel j'étais rentrée et qui me plaisait pas du tout, j'ai eu vraiment cette phase de je fais quoi de ma vie? Parce que je sais en fait que j'ai changé. Tu vois, genre, je sais que quand j'ai commencé les FAP il y a 4 ans, j'étais une certaine personne. Je voulais travailler dans les grandes agences de com à Paris, etc. Maintenant, j'ai totalement changé. Je suis plus comme ça. Je suis plus attirée vers les paillettes, les tapis rouges, les grandes agences. Au contraire, je préfère les petites choses qui ont plus de sens. Donc, il y a déjà cette grosse remise en question de qui je suis, parce que tu changes entre ta première année post-bac et la fin de tes études.
De ouf.
C'est quand même t'es deux personnes différentes et il y a peut-être beaucoup de monde qui va se reconnaître dans le fait de bah, les études que j'ai choisies et qui me correspondent à un moment ne me correspondent plus. Et moi je dis pas que ça me correspond plus, c'est juste que je me suis rendu compte que c'était super difficile de rester axée sur une seule voie. Quand tu évolues, t'as plein d'autres sujets qui rentrent en jeu. Par exemple, moi, je me suis intéressée à la psycho, au développement personnel, à plein de choses. Et à chaque fois, il y a la petite voix dans ma tête qui me dit « Mais bah, sinon, tu fais ça. Tu fais ça comme métier. Pourquoi tu te lancerais pas dans ces voies-là » Et il y a l'autre petite voix dans ma tête qui est « Mais t'as commencé il y a 3 ans. T'as fait une bonne école. » Parce que j'avais ce truc, moi, bah, comme je t'ai dit, dans ma famille, c'est un peu la course à la perfection.
Ouais.
Il faut faire les meilleures écoles, etc. Donc, bah, moi, je m'étais lancée à l'EFAP en me disant « C'est une très bonne école. Je vais poursuivre un master. Je vais faire un master dans une très bonne école. » Et pour mon ego, le fait de me dire que là j'ai pas encore validé le master et que j'ai arrêté celui que je faisais, c'est très dur.
Ouais.
Genre je pense que c'est le truc le plus difficile, c'est de me regarder dans le miroir et de me dire je fais quoi, est-ce que j'arrête tout, je me lance toute seule, je travaille, etc. Mais j'ai pas ce bagage de master. Il y a aussi ma petite voix qui me dit mais t'es capable, enfin t'es pas plus conne que la moyenne, t'as eu des superbes expériences parfois. Enfin, c'est horrible, mais genre, avec beaucoup de pincettes, je dis ça, mais j'ai eu des très bonnes expériences pour 3 ans en école de communication que parfois certaines personnes n'ont pas eues en validant un master. Donc je me dis, en soi, j'ai appris beaucoup de choses, mais il y a quand même ce truc de la société ne veut pas que tu n'aies pas ce master, tu vois. Et là, je suis dans cette phase de transition, vraiment, où j'ai pas la réponse, où je me dis, je fais quoi? Donc, je me suis inscrite pour passer un concours pour rentrer en master l'année prochaine, pour reprendre mes études dans une école qui me correspondrait plus que celle que je faisais là. Et tous les jours, je me dis, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je me mets à mon compte pour travailler sur d'autres sujets? Est-ce que je fais des formations de prof de yoga, de psycho ou autre, parce que ça matche avec qui je suis maintenant? Est-ce que je finis ce que j'ai entamé il y a 3 ans? C'est le flou total, donc j'ai pas la réponse, et je suis juste en train de... Bah toi-même, tu le sais, on est juste en train de se dire, bah à voir, en fait, et c'est super dur, parce que autour, il y a tout le regard des gens, et c'est horrible, parce que moi, j'ai ma famille qui, même s'ils essayent d'être dans la bienveillance, je ressens que c'est pas le cas, je ressens que mes parents, ils stressent, en mode, mais tu fais quoi? Mais du coup, t'en es où? Mais tu vas faire quoi de ta vie? Et après, tu fais quoi? Tu travailles? Tu travailles pas? Tu prends un job? Tu te mets à ton compte? Tu reprends tes études? Je ne sais pas. Laissez-moi respirer, j'ai 23 ans, je suis à l'école depuis que j'ai 2 ans et demi, donc ça fait plus de 20 ans. Et là, pour une fois, ça fait 3 mois, je ne sais juste plus ce que je veux faire. Et je pense que cette pause, tout le monde devrait la prendre un moment dans ses études.
C'est hyper important parce qu'au final, les questions que tu te poses là, en vrai, c'était les mêmes questions que tu te posais à la fin du bac. C'est « Ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et en vrai, c'est important. C'est dur quand t'es en plein dedans cette réflexion-là. C'est trop dur parce que justement, tu te sens nul. Tu te dis bah, « Je suis pas capable de, je suis pas capable, machin. » Sauf que quand tu regarderas ce moment-là avec du recul, comme on le regarde aujourd'hui avec du recul en étant plus grande de l'après-bac, on se dit bah, « Après, j'ai quand même réussi à faire des bons choix. » Donc c'est important. C'est dur, mais c'est important.
Oui. Mais en vrai, je pense qu'il faut passer par ces périodes de doute parce que c'est les périodes de doute qui permettent de trouver au final qui on est. Et parfois, c'est ce que je trouve très difficile, c'est de réussir à se couper des peurs des autres et des ouais. angoisses et du regard des gens qui sont... Par exemple, moi, je sais que j'ai tous mes potes qui sont en master ou en train de valider leur, leurs emplois. Et je suis là, je suis en mode, mais moi, je suis pas capable, j'ai pas réussi, j'y suis pas du tout, je suis au chômage. Enfin, c'est... Mon ego prend un coup de malade. Et après, j'ai ma petite voix gentille quand même qui me dit, mais peut-être que là, tu vas réussir à faire des choses très belles, mais donne-toi le temps et ouais. va à ton rythme et prends ce temps de pause. Et ça veut... Enfin, sur une vie, c'est rien de se poser, de se dire, bah, qu'est-ce que je veux faire, plutôt que parfois foncer tête bêche, c'est ça l'expression ?
Ouais, je crois.
dans tous les sens, et en se disant, bah, je reste dans un truc qui ne me correspond pas. Enfin, il y a combien de personnes autour de nous qui sont dans des études ou dans des parcours qui ne leur plaisent pas parce que c'est plus safe de rester dedans ?
Donc, bah, au et final, puis surtout que tu as vécu un burn-out, ça peut-être qu'on pourra faire un épisode entier là-dessus, des conséquences du burn-out, etc. Parce que là, j'ai peur que ça dure diplôme si on en parle plus. Mais ce serait intéressant. Enfin, tu es quand même passée par cette phase-là. Et la reconstruction après un burn-out, après, ça dépend des gens. Hein.
Parce que toi, du coup, tu le vis comment ? Parce que toi, du coup, tu as validé ton master, tu as travaillé et ensuite, tu as décidé de quitter ton emploi.
C'est ça, ouais.
Donc, tu es dans quelle... Quelle énergie.
Fatiguée, la gosse elle est fatiguée vraiment. C'est très bizarre parce que c'est vraiment par phase et comme toi tu l'as bien expliqué où tu vois t'as ta petite voix des fois qui va être plus douce avec toi et puis t'as l'autre voix de l'autre côté qui va être un peu plus dure. Bah moi c'est la même chose et par phase. Genre il y a des semaines où je suis hyper heureuse, hyper créative et je me dis putain j'ai envie de faire ça, plein de projets dont on ne parlera pas tout de suite mais bref, il y a plein de projets, plein d'idées qui sont trop cool et je me sens chaud tu vois, des fois je me dis meuf t'es d'attaque tu vois, t'as vécu un truc qui est pas facile et t'arrives quand même à créer de nouvelles choses et avoir de l'ambition et juste avoir envie de faire des trucs, c'est trop cool. Et puis bah t'as l'autre côté, donc la vilaine voix, le petit bonhomme sur ton épaule qui est pas hyper sympa et qui lui va te dire bah non mais t'as pas à être fatiguée à ce point-là, t'as que 24 ans, il serait peut-être temps que tu te reprennes en main, là tu viens effectivement de terminer ta vie d'étudiante, là ça y est c'est ta vie d'adulte, il est grand temps que tu te bouges, l'aspect financier forcément on n'en parle pas assez, enfin bon c'est pas tabou dans tous les cas mais l'aspect financier ça commence à devenir un peu compliqué aussi et puis bah la France n'aide pas les jeunes. coucou la France, enfin on se rend compte, j'espère que vous êtes pas dans cette situation aussi, mais nous on prend conscience des aides, des trucs, des machins, y a pas grand chose hein. Franchement t'es un jeune, t'es en train de te remettre en question,
tu peux aller sous un pont je pense. Non mais c'est ça, mais nous si on avait pas nos parents en vrai derrière qui étaient un petit peu en train d'essayer d'arroser,
bah t'as pas de soutien
la plante, et encore ça arrose la plante mais t'as bien le petit truc de je t'arrose ta plante mais du coup tu l'arroses pas toi-même.
Après je te mets un sèche-cheveux.
Voilà. Mais tu travailles pas quand même, tu fais rien là, tu stresses tout le monde mais là.
On n'a pas vraiment de conseils à proprement parler pour vous dire bah vous vivez cette période-là un peu difficile, il faut faire ça. On n'a pas de conseils parce que nous on est en plein dedans en ce moment, mais je trouve que ce qui est intéressant c'est justement d'en parler et un peu de libérer un peu la parole là-dessus et puis de se dire bah même si t'as 20, 23, 24, même si t'as 25, 26, 27, 30 ans, j'en sais rien, tu vois. À n'importe quel âge, je pense que t'as toujours des périodes de vie où tu te remets en question. Tu l'as quand t'es au collège, tu l'as quand t'es au lycée, tu l'as après ton lycée. Enfin, tu l'as, je pense, un petit peu en continu. Et puis surtout, notre génération de gens qui ont la vingtaine aujourd'hui, on est quand même un peu une génération de sacrifiés.
Et puis on grandit avec normal, quoi. Nous, on grandit avec les réseaux sociaux. On voit des gens qui font des choses qui kiffent toute la journée et qui sont rémunérés pour le faire. On voit qu'on a tout le champ des possibles. Donc, limite, est-ce que c'est pas plus compliqué, nous, à notre génération, parce qu'on sait qu'on peut faire toutes les écoles, on peut voyager, on peut créer son business en 5 minutes, on peut faire tellement de choses, on sait plus quoi faire. Ouais. Alors qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était « Ah, bah, t'aimes bien un peu ça ? Bon, vas-y, tu vas faire ça. » Et puis, ils se posaient pas de questions.
Ouais.
Donc, c'est peut-être pas qu'eux n'ont pas eu ces remises en question-là, c'est qu'elles n'avaient pas lieu d'être parce qu'ils n'avaient pas autant de possibilités autour d'eux de bah peut-être que t'as ça que tu peux faire. Eux, c'était t'as pas ton bac, tu vas faire un truc pro, tu travailles, tu payes ton loyer et basta. Nous, c'est mais le sens de ma vie, quel est le sens ? Mais pourquoi est-ce que je respire et pourquoi je suis incarnée ? Qu'est-ce que je vais faire jusqu'à la fin ? La retraite, c'est à 92 ans, qu'est-ce que je vais faire ?
Regardez pas combien de temps vous avez, enfin combien de trucs vous avez cotisé là sur la retraite.
Isa a cotisé 10 mois.
Je suis hyper fière, 10 sur 165. T'as entièrement raison. Donc si vous vivez une période difficile, bah c'est ok.
Ouais.
Nous aussi, on est ensemble dans ce combat. Et en vrai, on peut déjà tous être hyper fiers du trajet qu'on a parcouru, que vous soyez réorienté, que vous ayez fait 1000 écoles différentes. Enfin, je sais que j'ai des potes qui sont en plein là-dedans, qui ont tenté de se réorienter sur plein de trucs. Déjà, rien que là-dessus, tu peux être hyper fier de toi parce que t'as la force mentale à chaque fois de te dire « Ok, ça, j'ai pas kiffé, je fais autre chose. »
Ouais.
Donc en vrai, tous autant qu'on est, on est trop fort, un peu de positivité, parce que nous, on a bien besoin en ce moment.
Ouais, non, mais c'est ça. Fort. Vraiment, c'est difficile d'être jeune, c'est difficile de faire des études, de trouver sa voie, de savoir ce qu'on fait. Et franchement, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-études, il n'y a pas de machin réussi mieux qu'un tel, ça n'existe pas. Tout le monde réussit à son niveau, avec son bagage, on en parle nous tout le temps, son bagage psychologique, familial, émotionnel, financier. Tout ça, ça joue dans ce qu'on est au quotidien. Donc il ne faut pas baisser les bras et il faut s'accorder du temps. Et souvent, quand on a les plus grosses remises en question, les réponses, elles sont juste en cultivant ce qu'on aime. Ouais. C'est super bateau, mais plus vous allez faire des choses qui vous plaisent. Nous, par exemple, si on a créé le podcast, c'est parce qu'on a eu ce besoin de parler, de se redécouvrir, de lâcher plein de poids qu'on avait qui nous empêchait peut-être d'avancer dans nos vies. Et on n'est pas rémunéré pour le faire, mais ça nous permet de dépoussiérer beaucoup de choses et de faire de la place pour ce qu'on aime vraiment et d'autres objectifs. Donc s'il y a un conseil à tirer, c'est que si vous êtes paumé ou pas, faites des choses que vous aimez. Il n'y a que ça que ça va libérer de la place pour les vraies choses à construire par la suite.
C'était super beau, putain, la vache. La vache, je suis sentimentale.
Petite larme, j'ai les larmes aux yeux.
Un petit peu,
allez. Enfin bon.
Merci. Merci Pauline, juste d'exister.
Merci d'être ma safe place.
Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 4e épisode. On a une petite idée pour le 5e justement qui va découvrir cette entrevue toutes les deux en invitant 2 autres personnes.
Oui.
Je pense que ça pourrait être chouette. Donc on keep in touch.
Oui.
Voilà.
On aimerait continuer sur toutes ces histoires de parcours parce qu'on n'en parle pas assez. Les études, le parcours. Donc on réfléchit au format et puis on revient vers vous très vite.
Exactement.
Salut Lisa.
Salut Pauline. Bonne soirée.